chance qu'on s'aime. Salut tout le monde, bienvenue à Une chance qu'on s'aime. Encore une fois, je m'appelle Pierre-Luc Aude et je suis en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA.
Salut Pierre-Luc.
Pierre, ça fait longtemps que je n'ai pas dit que tu es professeur en agriculture biologique à l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique de Victoriaville, puis que moi, ben, j'ai pas de job. Aujourd'hui, PA, on va recevoir quelqu'un qu'on aime beaucoup en tant que jardinier, mais aussi en tant qu'humain, parce qu'on connaît Robin. Moi, je connais parce que c'est le mari de la cousine à ma blonde, à ma femme, que j'ai demandé en mariage le jour de son mariage à Robin, chez lui à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. C'est aussi un gars qui... Ben, toi, c'est quoi ton lien avec Robin? As-tu un autre lien que par le fait d'être un fan de Robin?
Ben, quand tu es en agriculture bio, il y a un monde de musique traditionnelle qui vit, comment dire...
Il y a un monde parallèle.
Mais non, il est comme en satellite ou en orbite autour du monde du bio, ou le monde du bio est en orbite autour du monde du trad. Là, je ne sais pas comment le prendre.
Ben, c'est la même maladie mentale, je pense.
Ben, ouais, peut-être, on peut voir ça comme ça. Donc, certains collègues qui jouent du trad ou amis qui en font, ben, par la force des choses, j'ai fini par rencontrer Robin. Puis, il fut un temps où tu m'invitais dans tes parties de jour de l'an. Puis, écoute, un de mes bons chums, Martin et Robin, ben, c'était eux autres qui faisaient la musique pour la soirée. Puis, ça a été dans des soirées mémorables à danser le swing et à sentir le swing tous ensemble.
Bon, on dansait pas le swing, mais visiblement, tu étais éméché. On dansait des 7 carrés puis des bastringues.
Ah,
mais
okay,
toi, ça ressemblait à du swing.
Ben, en tout cas, un moment donné, il dit « Swingez votre partenaire », il dit pas de la bastringuer, là, fait que, en tout cas,
ça doit être moi qui fais
erreur. T'as raison, c'est tout le temps moi qui se trompe.
Donc, beaucoup de détours pour dire qu'on aime Robin, puis qu'on aime ce qu'il fait, parce que c'est un exemple aussi, tu sais, tous nos épisodes ont un petit passage où on parle d'autosuffisance à peu près, mais là, lui, il est incollable là-dessus. On a déjà parlé de la musique trad, mais tout ce qui est traditionnel, tout ce qui doit survivre de l'époque où on était autosuffisant totalement, il en est l'encyclopédie. C'est un gars qui a un verger. Hey, mon Dieu, on ne partira pas nommer tout ce qu'il y a. Mais bref, il a déjà vécu plusieurs mois, plus qu'une année, presque 2 ans, je pense, d'autosuffisance. Il va nous l'expliquer dans le balado qui suit. Puis,
ben, écoute, Pierre-Luc, c'est vraiment une leçon d'humilité. T'sais, nous, on est fiers de ce qu'on fait. Tu es fier d'atteindre un niveau d'autosuffisance en sauce à spaghetti. Mais là, comme tu le mentionnes, quand tu as un verger, tu fais ton propre cidre, ton élevage d'animaux pour faire ta viande, que tu fais même pousser le grain pour donner la moulée aux poules pondeuses pour que ça soit vraiment 100% local. Quand tu fais ta propre farine, c'est ça, c'est une méchante leçon qu'on a eue. Disons qu'on se sentait moins haut, fait qu'on a ramené ça sur le plancher des vaches, puis parler avec lui, ben un peu comme tu le mentionnes, c'est un peu comme faire un voyage dans le temps, mais au temps d'aujourd'hui. Fait que c'est une discussion, moi, que j'ai trouvée passionnante puis qui m'a donné aussi l'eau à la bouche quand il décrit les recettes qu'il fait. Là, t'as faim là, à l'écouter. Là.
Ah oui, vous allez vous dire, chers auditrices et auditeurs, en écoutant Robin, mais pourquoi c'est pas Robin qui fait le balado? Parce que je pense qu'on fait une heure et quart avec lui, puis c'est passionnant. Chaque minute est passionnante. Il y a, malheureusement, la pandémie a fait en sorte qu'on a eu la chance de pouvoir faire des interviews avec des gens qui sont aussi loin qu'à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que malheureusement, on ne fait pas ça dans des studios. Robin était dans sa cuisine et puis ça nous a engendré beaucoup de difficultés au niveau du son. Fait que on l'a dit plus tôt, Robin, c'est une machine. Ben là, il va avoir une petite voix de robot un peu parce que les logiciels de montage audio nous ont c'est comme l'effet secondaire un peu quand on veut faire disparaître les bruits des autos ou des frigos en arrière ou peu importe ce qui fait du bruit, ben ça rend la voix un petit peu plus numérique. On s'en excuse. On a choisi de vous présenter l'épisode tel quel puisque le contenu est vraiment extraordinaire, mais vous allez devoir excuser les imperfections au niveau du son. Mais c'est pas grave. Le contenant, des fois, c'est pas aussi important que le contenu, puis surtout en cette occurrence.
Ben, tu vois, moi, je trouve que ça lui donne encore plus une petite touche ancestrale. C'est comme si on retournait à une certaine époque où les enregistreuses étaient plutôt désuètes versus ce qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est ça. Voyez-le comme ça.
Ben voilà. C'est comme regarder une partie de hockey des années 80. Tu dis, voyons.
Il patine sa bottine.
La POC. OK, alors bonne écoute à tout le monde. Mais avant, on vous présente nos généreux commanditaires. Merci à notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 de Une chance qu'on se sent. Ben, je dis saison 2, mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. À chaque année, je me fais bouffer mes carottes par les chevreuils. Fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète ses légumes, ils sont parfaits.
Bon, enfin une bonne raison de ne pas suivre mes conseils. Ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, comment t'as fait pour la trouver, ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du Réseau des fermières et fermiers de famille, au fermiersdefamille.com. Puis là, tout de suite, il y a une carte qui me dit quels sont les membres du réseau les plus près. C'est full techno. Là. C'est la nouvelle façon d'acheter des légumes bio.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau. La RFF soutient les maraîchères et les maraîchers depuis 25 ans. Ils sont maintenant au moins 150 fermières et fermiers de famille. D'Ottawa à Moncton, en passant par le lac Saint-Jean et la Gaspésie, tu pourrions même manger ton homard avec des asperges gaspésiennes.
C'est génial, ça, parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local, puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde s'aime.
Oh!
Hey, PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant, ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras, connais-tu ça?
Non, ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevé par tricycle à Montréal, 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu, c'est exactement ça. Ça a un TDA de 3,32.
NPK, PL.
OK, PA, NPK. Et 3,32, c'est aussi bon que 20-20-20?
Ben, c'est bien mieux comme produit. Premièrement, c'est naturel, c'est certifié biologique, c'est riche en matière organique, ça nourrit donc le sol, pas juste la plante.
Ah ouais, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, c'est pas du sol que je veux faire pousser.
C'est la même différence que juste manger des pilules ou manger un bon repas complet. En plus, tu peux aussi en donner à tes plantes d'intérieur. Tu l'as trouvé où, ton Fertifras?
Sur le site de fertifras.com, mais je sais qu'il y en a au centre jardin proche de chez vous.
Cool.
J'ai hâte de voir la frasse que tu vas faire quand tu vas voir la grosseur de mes tomates.
Bienvenue à Une chance qu'on s'aime.
Nous autres, on te prend du temps précieux là, à placoter ensemble alors que tu pourrais être en train là, de rotoculter.
Ben, j'avoue que oui.
Ben, merci.
Je m'en allais transplanter des arbres fruitiers avant qu'ils soient déjà un peu tard. Là. Ça fait que...
Parce que là, les bourgeons, ils sortent là, tranquillement.
Oui, c'est ça. Ça fait que... Mais ils vont être corrects. Ça va tout tomber en place.
Et là, ça grandit ton verger, il va commencer à être grand. Là. Ça t'en fait combien d'arbres fruitiers au total, tu penses?
Ben, je pense tout de suite, pommiers, on en a... Ça frôle les 75 à 100, là. J'ai perdu le compte. Là. Puis je peux pas dire que chaque arbre est un succès là, quand même. C'est pour ça que j'en fais toujours un petit peu plus que moins. Puis là, on découvre que les souris ont grignoté sur des petits arbres pendant l'hiver. Par-dessus la protection, ça fait que, tu sais, il y a toujours comme un recul, ça prend des années, ça fait que moi, j'essaie d'en faire plus, puis la nature va toujours en prendre une partie, ça fait que...
Tu fais surtout des pommes ou qu'est-ce que tu fais?
Tout de suite, je complète un verger que j'ai commencé il y a quelques années où je voulais vraiment avoir des variétés de la région ici. Mm-hmm. Ça fait qu'on fouille les vieux vergers, c'est vraiment... T'sais, le Nouveau-Brunswick, c'est quand même... Les gens se sont installés ici au début des années 1800. Puis à l'époque, on pensait pas que la pomme était possible. Il y a des gens qui disaient non, c'est impossible. Ça se pousse pas au Nouveau-Brunswick. Puis depuis ce temps-là, il y a un homme qui s'appelle Peabody Sharp qui a commencé une pépinière dans le sud. Puis écoutez, le gars, là, il faisait pousser des pêches. Il penchait les arbres sous la neige l'hiver. Puis, c'est le début 1800. Puis il a commandé des pépins, lui, des forêts du Kazakhstan. Fait qu'il est allé chercher une génétique... Tu sais, on s'attend pas que quelqu'un au Canada fait ça, mais à l'époque, je veux dire, c'était possible de, on fait pas peut-être y aller au Kazakhstan. Mm-hmm. C'était difficile, mais commander des pépins, ça se faisait. Puis lui, il a planté des milliers, des milliers, des milliers de pépins, puis il a sélectionné des pommes qui sont issues de cette génétique-là, de cette forêt-là, qu'on peut nommer, il y a la New Brunswicker, la Crimson Beauty. Puis ça sort tout de ce centre d'études-là. Puis moi, quand je fouille dans les vieux vergers, ben, on les trouve plus, ces pommes-là, dans les marchés. On s'entend que ça a été remplacé par la McIntosh, la Cortland, puis aujourd'hui par d'autres pommes modernes. Ce qui fait que elles sont délicieuses en tarte, en jus, puis tout ça. Ça fait que c'est un peu ça le verger. Puis on s'entend que je fais pas ma vie de ça. Ça fait que je peux me permettre d'acheter des variétés non productives ou qui correspondent pas aux critères là de l'épicerie là.
Hey, la New Brunswicker, ça c'est un nom là, j'adore ça. Moi qui habite à Tinwick, je pense que je vais être un Tin Wicker à cette heure. C'est bon ça, Pierre-Luc?
Merveilleux, bonne chance. T'as-tu les connaissances du 18e siècle, toi, là, du 19e?
Pas autant que Robin. Puis moi, ce qui m'impressionne de son histoire, Robin, il n'y avait pas de site Internet à l'époque. Fait que comment tu fais pour trouver un semencier au Kazakhstan au 19e siècle? T'envoies des lettres de même, puis t'espères avoir des semences, des pépins de pommes par la poste.
Ah ouais, mais je pense que tu pouvais même recevoir des pépins là, d'Amazon. Amazon, là, au Brésil.
Ouais, merci Pierre-Luc pour cette bonne blague.
Fait que, mais là, tu parles de non-productivité avec tes pommiers, mais quand dans le fond, c'est pour faire des cidres aussi. Je pense que tu fais de l'alcool avec ça aussi.
Oui, on fait toutes sortes de choses. Puis, mais tu sais, moi, avant tout, je suis enseignant. Ça fait vraiment la vraie raison pourquoi je fais ça, c'est pour explorer, être curieux, puis... avec les élèves, c'est le fun d'apporter une pomme, là, tu sais, tout d'un coup, on passe la chanson « Pomme de Renette et pomme d'api » à « Tiens, goûte-la, tu sais. » C'est vrai, je l'ai chez nous, la pomme d'api, c'est... Puis
C'est bon, j'allais te demander, c'est quoi une pomme d'api? C'est une sorte comme...
C'est une toute petite pomme sucrée qui est dans les livres, on sait que ça vient de 1620 quelque chose. Puis, ben c'est ça, c'est que la chanson, elle n'a pas été inventée à partir de rien.
Non, c'est vrai.
La pomme, elle existe. C'était même une pomme populaire à l'époque. Tu sais, la pensée que c'est des choses qui, aujourd'hui, on connaît plus, ont déjà été populaires. Mais un jour, on parlera peut-être de la Cortland, puis il n'y a personne qui l'aura goûté. Puis, ou même la Honeycrisp, tu sais, ça sera peut-être dans une chanson, je doute, là. Mais on ne sait jamais.
Je suis sûr que Maroon 5 a fait une tune qui s'appelle Honeycrisp.
Moi, je pensais que tu allais dire, vu que tu es enseignant, tu as beaucoup de temps libre, ce qui te permet finalement d'avoir un grand jardin puis de viser l'autosuffisance autant que tu peux. Là.
Ouais, je dirais que ça, c'est vraiment... c'est pas vrai.
C'est pas vrai, hein? Ça?
Non.
Merci.
C'est juste toi, CPA.
Ah!
c'est pas vrai pour la raison suivante. Je veux dire, à cet instant de l'année, j'ai tout à faire puis il me reste encore un mois et demi d'école puis de tests et d'examens. Puis la journée que j'arrive, je suis en vacances. Puis c'est vrai qu'on a des vacances pendant l'été. Je veux dire, j'ai rien à faire dans le jardin. Je vais voir les choses qui poussent. Puis il n'y a rien à récolter plus que ça. Nous, parce que c'est un jardin d'autosuffisance, des salades, on n'en a pas besoin de tant que ça. Ça fait que j'ai pas grand-chose à faire. J'ai beaucoup de légumes qui sont de longue durée pour la conservation. Ce qui fait que faut attendre à la rentrée scolaire. Et même un mois après la rentrée scolaire, avant de commencer à être occupé de nouveau. Puis... Le 20 août, je dirais que c'est vraiment là que ça commence.
Okay.
Puis le 20 août, moi, je me prépare à rentrer. Ça fait, tu sais, c'est pas... quand j'ai du temps, c'est pas là que ça se passe.
Ben justement, nous autres, on peut pas s'empêcher de parler d'autosuffisance avec toi, Robin, parce que en fait, on en parle avec tous nos invités de la saison présente, là, la saison 2 de Une chance qu'on s'aime. À chaque fois que moi, j'apporte ce sujet-là, tous nos intervenants, nos invités, ils veulent tout de suite, ils ont le réflexe. La première phrase qu'ils disent, c'est « descendre les attentes ». Là. Tout de suite, ils disent « non, 100% ça, non, ça, on s'entend pour dire que c'est impossible, on pense même pas à ça ». Puis là, on finit par négocier un 3, 4, 5% en faisant notre sauce à spaghetti puis une coupe d'ail pour l'hiver. Mais toi, t'es allé à 99, 100, peut-être même 150% aussi parce que t'as peut-être fait plus qu'une année. Puis j'imagine qu'après ça, t'as redescendu un petit peu en bas de la barre de 100% pour avoir une vraie vie. Là. Peux-tu nous parler un peu de cette courbe-là? Là? As-tu monté vite vers le 100 là, où ça a pris 15 ans pour bâtir cette montée-là?
La question est bonne. Il y a une histoire qui est pas dite. Quand on fait une émission de télé à la Semaine verte ou ainsi de suite, l'émission s'appelle 100% autosuffisant. Quand, je veux dire, moi, si j'avais été tout seul dans la vie, ça aurait probablement été 100%. Je pense que je l'aurais essayé, là, tout seul. Mais la réalité, c'est que j'ai ma femme qui, la seconde que j'ai mentionné ça, qu'on s'en allait, tu sais, vers les 100%, elle m'a dit clairement, elle dit, oublie ça, là, on fait pas ça plus qu'un mois. Et là, j'ai rencontré une madame qui travaillait pour le CBC. Ça fait que là, elle est venue à la maison, elle a filmé, elle a fait une nouvelle, puis le lendemain, ça fait les nouvelles nationales. Là, David Suzuki m'écrit, puis tout ça, puis là, c'est comme... Et là, on est sur le spot. Puis à quelque part, c'est drôle, mais je cherchais quasiment ça, parce que là, j'avais un appui. Mais c'était comme, ah ben non, on parle plus qu'un mois.
T'as l'appui de David Suzuki. On n'a pas le choix, chérie.
Non, mais tu sais, comme tout seul, moi, dans la maison avec ma famille, jamais qu'on aurait fait ça. Mais sincèrement, je pense que c'est parce qu'il y avait ce genre d'intérêt à l'extérieur. Puis ça venait un petit peu comme dire, ben, ce que vous faites, c'est intéressant. Versus que juste nous, ensemble, on dit, ben non, c'est fou faire ça, on peut pas faire ça. Puis il faut que les deux soient d'accord. Puis là, on impose tout ça à nos enfants. Mais là, parce que c'était comme un projet de société tout d'un coup, ben, on a décidé d'aller un peu plus loin. La semaine d'or nous a approché l'année d'après. Puis là, on l'avait déjà fait un an. Puis là, quand la semaine d'or nous a approché, ils nous ont demandé de filmer tout ça. Ça fait, ça ne tentait pas de le faire une deuxième année. On voulait pas faire 100% un deux ans. Puis on l'a fait pour, justement, pour être capable de documenter ça. Puis moi, au bout de la ligne, j'utilise avec des élèves. Je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Puis aussi démontrer que c'est un choix, là. Tu sais, on fait pas ça par nécessité. C'est quelque chose que aujourd'hui on peut explorer, ça peut être plaisant. Puis à l'âge que les enfants avaient, c'était la bonne âge pour le faire. Parce que ça s'est compliqué par la suite. Puis à un moment donné, là, les enfants qui disent, ah, je veux juste de quoi qui est emballé comme mes amis. Puis là, petit par petit, on a commencé à ouvrir, ben, collation, au lieu de les faire. Puis moi, j'ai réalisé que le soir, je peux aussi relaxer. Au lieu de faire toujours des desserts, toujours préparer tout dans des petits plats. Je veux dire, un an ou deux, ça va, là, du 100%, mais c'est épuisant aussi. Puis si les enfants l'apprécient pas, tu te dis, ben, pourquoi je le fais, tu sais, comme, pourquoi je dirais faire ça pour quelque chose qu'ils apprécient pas. Fait, c'est là qu'on a comme reculé petit par petit pour revenir à des choses, qu'on a envie de faire, qu'on peut pas acheter à l'épicerie. Ça fait que, disons, comme le four à pain, ben, les pizzas que je fais, les tomates confites, c'est un peu difficile d'acheter des tomates confites au Nouveau-Brunswick. En tout cas, ce que moi je préfère avec des tomates cerises sucrées, là, tu sais, quand tu fais confire ça, on s'entend que le goût est difficile à trouver ça. Ça fait que là, on fait des choses de ce style-là où on produit ce qu'on peut pas acheter. Ça fait que vraiment tout de suite, on est loin du 100%, là, avec nos enfants qui ont 11, 13 et 14 ans. Mais je dis pas qu'un jour, on va peut-être pas, revenir un petit peu, si moi et ma conjointe on a envie de faire ça, on sait comment faire au moins, on sait que c'est possible, mais le côté collectif est difficilement quelque chose qui devrait faire partie de l'équation. Pour nous autres, on ne veut pas faire de quoi tout seul. Moi, j'aime bien l'idée que mon ami produit du lait, puis moi je fais du fromage pour lui. Pour moi, ça c'est gagnant. Avoir une vache laitière, moi-même, de nouveau, pas certain que j'irais là.
Mais t'as été jusque-là quand même, là. Tu l'as eu, la vache, pour faire le fromage, pour avoir ton lait, t'as fait ton huile, t'as fait ta farine. Il me semble que ça a été loin, là. 100%, c'est gros.
On cultivait nos grains, on faisait pousser de l'avoine nue pour donner aux poules. C'était comme... On se disait... c'est allé jusqu'à dire, ben, on va pas dire que l'œuf est local si la nourriture vient de la prairie canadienne. Ça fait que on poussait notre grain, on utilisait des légumes, on faisait des recherches sur des légumes anciens pour les animaux, les râper, donc la recherche historique comme en Europe, avant le grain, on nourrissait, il y avait des légumes, des gigantesques même, tu sais, des variétés anciennes. Ça fait qu'il a fallu aller fouiller dans ces choses-là, mais il y a aussi eu beaucoup de déceptions, hein. C'est comme, pour les animaux, ça passe, mais un légume ancien pour l'humain quand c'est fibreux, puis l'histoire est belle, disons. Pas mal moins bon dans l'assiette, ça fait que il y a des choses comme ça. Il y a du romantisme autour de l'autosuffisance aussi, hein. C'est comme il y a quelque chose de vraiment juste un peu romantique. Puis ça peut plaire aussi, puis je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Mais la réalité, des fois, si ça devient déplaisant en famille, moi je pense pas que ça vaut la peine de nuire à...
Mais là, attends, qu'est-ce qui était romantique, là? C'est que vous jardiniez nu, puis c'était vraiment là, le naturalisme au maximum?
Non, c'était plutôt les légumes qui étaient nus, tu sais, c'était vraiment de capter le légume dans l'angle, c'est l'angle qu'il met en valeur, tu sais, un peu comme les calendriers de vaches laitières, là, qu'on produit à chaque année, là, tu sais, là, c'est des grosses.
T'as-tu fait un calendrier de zucchini?
Quasiment, je veux dire, toutes sortes de beaux zucchini, côtelés.
Ben, je me souviens, on avait passé quelques jours chez toi, Robin, il y a deux étés, puis on a trouvé des zucchini vraiment qui nous ont fait rire.
OK, ouais.
C'était vraiment surprenant, mais aussi, dans le monde des courges aussi, là, il y a des spécimens extraordinaires chez vous, là, qu'on ne voit pas ailleurs.
C'est ça. Puis amener ça aux élèves, je veux dire, c'est, C'est là, je trouve ça intriguant. Hein. C'est beau pour les yeux. Puis, je donne une citrouille aujourd'hui, c'est pour les yeux. Hein. C'est ouais. Un légume esthétique avant tout. Mais ce qui est beau avec les légumes anciens, c'est qu'on dirait qu'il y avait un mélange des deux. Il y avait un côté esthétique. Après ça, on peut aussi manger le vieux melon tout bossu qui était beau. Tant que moi, je trouve qu'il était beau sur la table. J'avais pas envie de le manger. Mais il était aussi bon.
Tu as mentionné le romantisme. Moi, c'est ça. J'en fais les frais là, quand je reçois des élèves qui viennent étudier en agriculture bio. Le métier, c'est d'être maraîcher, c'est pas d'être autosuffisant. Puis souvent, la question que je leur envoie pour leur faire comprendre, c'est quel métier vas-tu pratiquer pour finalement être capable de payer peut-être l'hypothèque ou ta maison sur laquelle tu vas vouloir jardiner ou pratiquer l'autosuffisance. Donc, toi, tu as un job à temps plein ou t'as pris un congé? Comment t'as fait pour pallier les deux un peu? Vu que tu nous expliquais que ton horaire de prof puis le jardin, ça, c'est souvent au même moment.
Ben, c'est sûr que ça, c'est important de mentionner que quand j'ai eu la vache laitière, ma fille devait avoir une opération majeure. On savait que ça s'en venait, ça fait que moi, j'ai fait un congé différé pour être capable d'être avec elle au cas qu'il y avait des complications. Et quand on est revenu de l'hôpital pour enfants à Halifax, c'est là que j'ai eu la vache laitière parce que j'étais à la maison tout cet automne-là jusqu'à le mois de février. Et là, j'ai commencé mon deuxième semestre. On a gardé la vache laitière, puis oui, c'est chaud comme projet, là. Pour l'avouer, là, quand j'ai recommencé à travailler, puis il y avait des activités, puis je devais aller traire la vache, puis la vache, elle s'attend que je sois ponctuel. Faut être là au bon moment, parce que sinon, c'est le bordel, genre, tu perds ta relation, puis de confiance avec l'animal. Puis là, tu commences avec du lait, toutes sortes de couleurs, que tu dois jeter, les pattes, tout ce qui se lève. Je veux dire, c'était pas plaisant d'être trop occupé à ce moment-là. C'est pour ça que on a fait un an et demi avec la vache laitière. Puis après ça, ça c'était beaucoup trop. Ça fait que c'était ça qui faisait déborder le verre. Le
OK, c'est pour ça que tu nous sors souvent l'exemple que ton voisin, lui, il a la vache laitière, puis que toi, tu peux lui faire le fromage, puis lui échanger. Là.
Exactement. Puis le fait que, tu sais, au début du COVID, quand même dire que comme enseignant, on a pu aussi faire un petit peu plus d'autosuffisance, parce que là, j'étais à la maison. On avait des longues réunions avant de commencer à enseigner. Puis lui, il jetait des milliers de litres par jour. Parce qu'à cause des restaurants qui étaient fermés, on prend juste le Tim Hortons, le Nouveau-Brunswick, il n'y a plus de crème, il n'y a plus de... Tout d'un coup, ben, ils vont jeter du lait. Il devait même payer pour que le transport vienne chercher son lait et le jeter. Ça fait que au Nouveau-Brunswick, je sais pas comment que la loi est faite, mais au Québec, c'était sûrement plus difficile de faire ceci. Mais de moi aller chercher son lait pour lui faire du fromage, puis que moi, j'en garde, ça se fait. Ça fait que nous,
c'est un super deal.
Ben oui, puis mais en même temps, si la loi est précise que ça, c'est pas possible, je veux dire, là, tu prends un risque. Mais en même temps, c'était pour sa consommation, pour la mienne. Puis lui, au final, lui, ce qu'il voulait, c'était du cheddar. Ça fait que qu'il y a un fromage pour moi qui est assez simple à faire. Je m'excuse pas du cheddar, des petits fromages en grains.
Ouais, ouais.
Lui, c'est ça qu'il voulait. Ça fait...
On a fait la même chose. Moi aussi, j'ai un ami agriculteur, puis on a fait deux belles mauvaises batches de fromage en crotte.
Mauvaise?
Ben, elle était bonne le soir même, là. Non, c'était vraiment... C'était raté.
Ah, OK.
Mais ça fait de la bonne poutine. C'est la meilleure poutine au monde parce que à la toute fin, on mettait du sel là-dedans. Là, puis le sel qui est fondant dans le fromage quand tu le bouffes, là, ça, c'est magique.
J'ai une histoire à vous conter. T'sais. Au début, quand on a eu la vache laitière, je veux dire, on avait 15 litres de lait par jour. Puis, c'est là, je cherchais pour des recettes de lait. Là, je faisais tout ce qui était possible à faire avec du lait. Deux semaines plus tard, j'ai une de mes filles qui me dit « Papa, c'est... deux semaines, j'ai pas été à la toilette. Ça fait, ça crée un débalancement, c'est un surplus. Une vache, c'est. Puis surtout, les vaches d'aujourd'hui sont beaucoup plus performantes, sont plus grosses aussi en termes de taille que les vaches d'il y a 200-300 ans, là, ouais. qui étaient plus petites, étaient plus à taille humaine. Puis, tu sais, à quelque part, je me dis, ben, c'est vrai que la distinction entre ce que l'industrie demande, puis la rentabilité, moi, j'ai pas ce souci-là, puis je préférais quasiment avoir les vaches anciennes. Elles sont plus petites, ce qui fait que les enfants peuvent participer, s'approcher. Je veux dire, aujourd'hui, on peut aller avec des chèvres, c'est mieux avec les enfants, mais mes enfants n'allaient pas à côté de la vache. Ça fait que ça, c'était pas un aspect qu'on pouvait socialement faire, c'était pas participatif, là. C'était moi tout seul dans la grange avec la vache. puis pour la terre. On s'entend qu'on l'a pas élevé non plus. Ça fait qu'on était chercher une vache qui s'en allait à la boucherie. Ça sortait de du système de production. Puis nous, on l'a récupéré, on l'a amené à la maison, puis on a passé un an et demi. Ce qui serait l'idéal, ce serait vraiment de l'avoir comme petit, un veau. Ça fait que tu as vraiment une relation avec l'animal de confiance. Puis là, tu étais habitué, tu la connais, ça fait que c'est comme prévisible. Puis là, les enfants auraient pu participer. Nous autres, vraiment, tout ce qui était vache laitière, c'était zéro avec les enfants. Même les poules, zéro, pas d'intérêt. Ce qui fait que les animaux, ça n'a pas été un succès en termes d'aventure familiale. Mais les légumes, oui, on fait toujours des récoltes. Aujourd'hui, on plante notre ail ensemble à chaque année. Des fois, on fait des récoltes, des centaines de personnes à la fois. Hein. Oh. Comme quand on s'est marié, on a décidé que c'était le cadeau de mariage. Je veux dire, c'est quoi, 200 personnes qui ramassent de l'ail en même temps. Ça s'est vite ramassé cette année-là. Là.
Mais je me souviens, cette journée-là, tu nous parlais que tu avais une vision à long terme avec ces gousses d'ail-là puis tes filles, tu sais, que si je me souviens, tu me disais, si jamais les filles veulent avoir un petit projet entrepreneurial, là, c'est facile. Ils ont une gousse, après ça, l'année d'après, ils en ont quatre, après l'année d'après, ils en ont 16, puis ils peuvent se rendre à 25 000, là, s'ils veulent. Là. C'est rendu où, là? Ils sont rendus à combien, les filles?
Je veux dire, à chaque année, on fait ça, puis c'est la routine, puis s'il y en a un peu moins, les filles sont contentes, la récolte, c'est pas du tout l'entreprise. Je pense pas qu'ils vont aller dans ce domaine-là. Mais je veux dire, ils sont encore jeunes. Puis moi, ce que ça me permet de faire, l'autosuffisance, puis tout ça comme enseignant, parce qu'on s'entend que les enseignants, souvent, on fait des études, puis on n'a pas vraiment vécu la vraie vie. Puis je dis pas que je suis maraîcher ou que je connais vraiment toutes les techniques, tout ça, mais ça me permet quand même de valoriser le métier, puis je m'informe, puis je comprends beaucoup mieux, je crois, ce que ça prend. Puis j'encourage les jeunes d'aller en agriculture, parce que je sais que j'ai des élèves dans ma classe que, et à cette année-ci d'année, c'est difficile là, avec le beau soleil, ils ont envie d'être dehors, sont manuels, ils veulent travailler avec leurs mains. Puis souvent, je pense qu'on ne présente pas beaucoup en orientation, c'est comme quoi un métier d'avenir. Puis au Nouveau-Brunswick aussi, hein, parce qu'on n'est pas sur des terres renommées là, comme étant des bonnes terres agricoles. Nous, c'est la pêche et la forêt. Dans le sud de la province, par contre, il y a des belles terres. Mais il y a des territoires au Québec qui étaient aussi pas réputés pour être des bons territoires agricoles, où il y a des gens qui ont fait de la magie et ont même dû être très créatifs, puis ont fait des choses exceptionnelles. Puis je pense que notre coin, on pourrait s'inspirer de ça.
Ben, tu vois, je pense que les maraîchers aussi sont très créatifs dans l'occupation du territoire. Souvent, on se retrouve sur des terres marginales qui n'avaient pas d'intérêt au niveau des productions plus commerciales. Puis finalement, ben, une petite échelle ou une échelle comme la tienne, Robin, là, ben là, on peut les valoriser. L'autre chose, moi, écoute, j'entends plein d'affaires qui me touchent parce que j'ai fini en agronomie, mais j'étudiais sur la rive sud de Montréal au collégial. Je ne savais pas que ça existait, mais ma première amoureuse avait une ferme laitière. Puis je savais quand même que le domaine agricole était un domaine dans lequel il y avait toujours de l'emploi. Puis c'était de mettre de la biologie, si on veut, un peu en pratique, sans tomber dans l'industrie. Puis désormais, l'agriculture urbaine, qu'on a parlé quand même à quelques reprises pour la saison 2 du podcast, va amener, je crois, plus de gens à s'intéresser de la provenance des aliments puis au métier, finalement, agricole ou de l'agronomie. Fait que c'est génial. Puis ça prend des profs comme toi, je pense, qui l'amènent aux jeunes, qui leur font goûter des choses autres que celles de l'épicerie. Puis après ça, dans la culture, ça devient commun, finalement. Tu sais, c'est ce qu'ils connaissent, là.
Oui, c'est ça.
Je sais pas si tu m'as suivi.
Non, puis c'est vraiment ce que je vois qui semble être la barrière, parce qu'assez souvent, quand on me demandait, on fait un jardin communautaire, la première chose que j'entends, c'est qu'ils vont le mettre dans le fond d'un champ. C'est pas social, c'est complètement déconnecté, puis il y a cet aspect-là que c'est encore gênant. Et aussi longtemps que ça existe dans la pensée de ceux qui ont la capacité de mener des projets, chercher des fonds et ainsi de suite, on va toujours chercher à le repousser, le mettre de côté. Et le premier petit problème associé à ça, que ce soit des souris, des rats, peu importe, on sait qu'il y a des solutions, on peut bien faire des choses, mais là, tout d'un coup, c'est comme on le met de côté, le projet, parce que déjà, il est vu comme marginal. Puis si les gens qui sont dans des positions d'influence, moi, j'enseigne à des jeunes, je veux dire, j'ai la capacité de discuter, de questionner la vie, tout ça. Puis si moi, je trouve ça gênant, les jeunes vont le ressentir aussi. Ce qui fait que en l'ayant connu, puis que j'ai des exemples concrets, ben c'est pas gênant pour moi, puis même que je trouve c'est honorable. Puis je pense que si on peut être un peu plus à faire ceci, là il pourrait vraiment avoir un changement social au niveau de notre perception de l'agriculture.
Je pense même que les jeunes deviennent les porteurs de ce message-là auprès de leurs parents, puis qu'eux le demandent, même que les parents, des fois, jardinent. Ou un autre exemple plus... pas farfelu, là, mais bon, des fois, je fais visiter notre école, là, l'Institut national d'agriculture biologique, à des gens externes, beaucoup de visiteurs. Puis depuis l'année passée, on fait de l'élevage de ténébrions. Je ne sais pas si tu as fait de l'élevage d'insectes dans tes projets d'autosuffisance, mais les adultes lèvent souvent le nez sur ce produit-là, qui finalement, ben, quand les gens y goûtent, trouvent que c'est croustillant comme des chips. Mais les enfants à l'école où vont nos fils, moi et Pierre-Luc, ben, à leur école, souvent, ils en font de la dégustation d'insectes. Fait que pour eux, c'est comme un aliment comme un autre qui est pratiquement banal. Puis ça m'est même déjà arrivé que mon fils, dans l'étalage des aliments qu'on vend à notre école, ben, ils choisissent finalement le ténébrion parfumé au ketchup. Là. On s'entend que ça prend une petite saveur. Mais comme collation, plutôt que de prendre des concombres ou des tomates cerises. Là. Fait que je trouve que l'éducation là-dessus, c'est énorme le pouvoir que ça a d'amener le monde ailleurs. Là.
Fait que toi, Robin, t'es-tu plus zucchini fibreux ou ténébrillon au ketchup?
Ouais.
Et sérieusement, ça m'intéresse tout ça. Parce que, je veux dire, je suis aussi allé à des extrêmes aussi plutôt dégueulasses, là, vraiment. ça, c'est super. Mais à un moment donné, j'avais un vermicompost dans ma classe. Puis là, j'ai un élève qui a dit, monsieur, c'est-tu pas une nourriture de survie, ça? Je dis oui. Toi, tu feras survie? Il dit oui. Moi, puis toi, monsieur, on mange un verre. Ça fait qu'on s'est descendu un verre de terre en classe. Avec les élèves. Mais toi, tu le vermicompost, puis c'est pas toxique. Je veux dire, un verre, ça se mange. Oui, c'est dégueulasse. Je vous avoue que j'ai pas apprécié l'expérience. Mais c'est tellement une question avec le jeune de dire, si on est pris en forêt, c'est vrai que tu peux t'en lancer un verre de terre. Laisse-toi pas mourir. Tu peux le manger. Dans une question de survie, on a exploré ça, puis il y avait juste un des jeunes sur les 30 hein, qui a voulu essayer. Mais c'est si simple d'avoir un vermicompost, c'est si simple de dire à un jeune « Ah, oh, ton cœur de pomme, tu peux le mettre ici. » Puis tout d'un coup, c'est pas une poubelle, c'est une production, il y a une terre qui sort, puis c'est si facile de l'avoir. Puis même des semestres que j'avais oublié que c'était dans ma classe, le vermicompost. C'était juste un Tupperware qui était là. J'ai oublié que c'était là, puis il y avait de la belle terre. À un moment donné, je joue, puis tout est beau. Je le nourris, ils sont quand même assez patients, les vers de terre. Ils peuvent attendre pour leur nourriture, puis ils meurent pas si facilement. D'ailleurs, j'en ai un dans ma cave ici à la maison, puis ça me fait penser qu'il faut que j'aille le nourrir.
Il s'appelle comment?
C'est si simple. Comment?
Il s'appelle comment?
Le vermicompost.
Le verre, ok, ils sont plusieurs.
Ah oui, ils sont des milliers.
Je pensais que t'en avais un depuis 15 ans, là, puis qu'il était rendu gros de même, puis qu'il pouvait prendre un cœur de pomme au complet.
Non, non, non. Mais tu vois, des choses comme ça dans les écoles, je crois que un vermicompost, bon, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais un projet si simple à faire dans un cadre d'un cours de géographie, c'était de demander à des élèves de dresser une ligne sur une feuille, mettre tous les légumes qu'ils connaissent. Puis là, c'est sûr qu'au début, ils se disent, bah, c'est long, quand même en seconde.
Je les connais tous.
Je les connais tous. Puis là, après ça, tous les fruits. Puis là, il y a déjà la question, qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'un légume?
Ouais.
Non, non, c'est beau, on se pose pas la question de suite, on verra ça plus tard. Est-ce que tu penses qu'un fruit mêlé dans le fruit, légumes? C'est pas une grande liste. Après ça, je leur demande, OK, qu'est-ce qu'on peut cultiver ici? Encercler. Puis là, ils encerclent, Puis là, on fait un tour de classe. Puis après ça, je leur dis, OK, ben, regarde, ajoutez ça. Le kiwi arctique, ajoutez ça. Le melon, le cantaloup, ajoutez ça. Puis là, tout d'un coup, ils regardent la liste encore. Hey, monsieur, il y a beaucoup de choses qu'on peut cultiver. La liste est énorme. Je veux dire, on a peut-être mis de côté la mangue, puis l'ananas et tout ça, mais il reste qu'il y a beaucoup de choses. Puis les jeunes sont pas au courant que tout ça, ça se cultive. La deuxième partie du projet, je leur dis, choisissez quelque chose dans cette liste-là et vous allez commencer une entreprise. Vous allez me proposer une entreprise. Et il faut que vous fassiez quelque chose. Donc, il faut faire une recette. Et disons que tu choisis une recette de pesto. Bon, tu vas aller chercher tes ingrédients. Et dans la recette, ce que tu vas me remettre, c'est où je peux l'acheter localement. Donc, ils vont faire une recherche. Si dans la recette, il y a du miel, ils vont découvrir qu'il y a un producteur local. Donc, dans la recette, commence par connaître les producteurs de la région. Et dans le fond, on s'intéresse moins à la recette que de la provenance des ingrédients. Et ils finissent par faire le projet. S'ils n'ont pas les ingrédients, je les fournis pour que tout le monde ait la chance quand même de faire le projet. Puis il y a une journée qui ramène tout ça en salle de classe, qu'on déguste. Puis il y a eu des cours où, tu sais, il y a quelqu'un qui a fait du spaghetti à partir du blé, il fait des pâtes alimentaires. Là, on se demande comment on va le manger. Puis il y a un autre de l'autre côté de la salle. Il dit, hey, moi, j'ai fait un sel aromatisé avec des herbes. Là, on finit par mettre ça sur le spaghetti. C'est toujours le fun. On finit ce cours-là, puis c'est le cours le plus important du semestre.
Mais là, t'enseignes quoi, Robin?
Mais là, j'enseigne plus la géographie. Ça fait, je m'ennuie de faire...
C'est un cours de géo, ça.
Okay. Oui, parce que la géographie au Nouveau-Brunswick, c'est tous les territoires à risque. Donc, on a le territoire forestier à risque, maritime, agricole à risque. Puis dans ce territoire-là, au lieu de parler uniquement de la prairie canadienne, comme on fait habituellement, ben, on fait quelque chose d'un peu plus personnalisé, parler de notre territoire, terroir et ainsi de suite. Puis avec un projet comme ça. Et ça fait que... Maintenant, j'enseigne l'histoire. Ça fait que...
Bon. Tu vas trouver une façon de plugger l'agriculture là-dedans, c'est sûr.
Tu peux faire le même exercice, mais là, tu leur demandes d'où vient le légume au niveau historique. La tomate, la première tomate, elle arrivait d'où? La pomme de terre, le concombre, etc. Fait que il y a un lien quand même à faire, là.
C'est ça. Ça, on fait ça définitivement. Puis, mais un projet concret, là. C'est là où on fait quelque chose, on goûte quelque mm-hmm. chose. Et ça, je veux dire, le verger à l'école, on a un verger historique. Ça fait que là, d'ici la fin du semestre, on va aller tailler les pommiers. Puis, malheureusement, à ce semestre-ci, ils ne peuvent pas goûter. Mais le semestre de l'automne, ben, les jeunes peuvent aller dans le verger et cueillir une carie blanche d'hiver. Puis, leur faire une recherche puis découvrir que c'était à la cour de Louis XIII, je ne sais pas trop quoi, mentionné en 1700 quelque chose, 1700 ou 1700 quelque chose.
Fait qu'au début de l'année, tu te crois juste les doigts que pour avoir à enseigner l'histoire du Kazakhstan. Sinon, tu ne pourras pas plugger ton pépin.
Ben, j'enseigne toujours l'histoire, ça fait jusqu'à maintenant, ça fait que ça donne bien.
Wow! Hey, quand même, moi j'imaginais ton élève, là, pendant que tu l'expliquais, là, le projet d'entrepreneuriat, celui-là qui a offert un spaghetti au ver de terre aux autres, là, en se disant, ça, c'est... lui devait être super populaire.
Oui, ouais, tes fourmis couvertes enrobées de chocolat,
oui.
Ça c'est, j'ai déjà eu ça, sauf que là, j'étais obligé de dire que le chocolat, on l'avait pas encerclé sur la liste.
Non.
La seconde que les élèves disent, ben monsieur, sucre n'est pas là, chocolat n'est pas là, la première chose qu'ils me disent, c'est que ça ne sera pas bon. Ah. Je dis, super, ça c'est la première chose. Puis finalement, à la fin, je leur pose de nouveau la question. Puis ils disent, ah non, c'est fou ce que tu as fait avec le sirop d'érable, des genres de meringue à l'érable. Hey, c'est délicieux, des pommes, minces comme un chip, caramélisé, cuit au four dans du sirop d'érable, ça devient comme ça, claque comme un nuage. De goût de pomme dans la bouche. Vraiment des grands succès, là, des belles découvertes. Puis moi, j'ai profité un peu des résultats de ces projets-là pour aller à 100% autosuffisant. On avait toute une variété. Fait que beaucoup de mes recettes sont venues de ces projets-là que j'avais faites auparavant avec les élèves.
Des recettes que tu as créées, finalement, en partie.
Des recettes que les élèves ont un peu créées, mais fouillées et trouvées. Je veux dire, il y a plein de choses puis moi, je peux pas tout trouver moi-même. Mais le fait qu'eux sont allés fouiller dans différentes directions, ils ont tout amené ça de nouveau, les recettes. On mettait ça sur un site web. On partageait ça avec la communauté. Donc, les gens de la communauté pouvaient aller voir les recettes que les élèves avaient amenées.
Ouais.
Fait qu'année après année, on déposait ceci, puis les gens s'inspiraient de ce que les jeunes avaient trouvé.
J'imagine que ça a été une opportunité de transmission d'informations intergénérationnelles, de rencontres intergénérationnelles.
C'est tellement intéressant. Si je vais être en train d'attendre en ville un rendez-vous, puis je parle avec la personne qui est à côté, puis finalement, c'est une mère de famille qui dit « Ouf, hey, on a changé notre façon de manger à la maison. » On a eu des belles discussions. Puis je veux imaginer que des fois, je dis toujours aux jeunes, je dis oh, « Vous êtes chez vos parents, là. Ça ne veut pas tout changer A à Z. Mais moi, je vous dis... si vous voulez, on peut en discuter. Hein. Je pense que ça, c'est quand même possible. Ça fait que les discussions vont beaucoup plus loin hein, que juste parler. Les idées deviennent des actions. Puis souvent, j'entends ça des parents. Puis même, des fois, si tu vois qu'ils le disent avec un petit sourire, comme ça nous a donné un petit peu de fil à retordre.
Ouais, toi et là, puis tes histoires. Mon fils, il veut faire du cidre dans son garde-robe.
C'est ça. Mais ça, c'est faisait partie du projet. Il y en a qui m'ont bien dit, ils ont dit, mais ça, on peut-tu faire des alcools? Je dis, ouais, ça, c'est vous n'avez pas le temps, le projet pour dans une semaine.
Ah, c'est bon.
Hey, mais à quand, Robin, le livre de cuisine que tu pourrais sortir, écrire, ça marchera au bout? Là.
Ouais, 90% écrit.
Ah, pas vrai? Oh! Ricardo Leblanc?
Ça fait déjà 3 ans. J'ai mis ça de côté, on est trop occupés. J'avais tous mes dossiers, toutes les photos, les chapitres. Je jumelais toujours 2 activités, comme le fun, comme genre culture du blé et le four à pain. Donc, il y avait comme un projet manuel où on expliquait comment on faisait le four à pain. C'était jumelé avec la production de blé et tout ce qu'on faisait avec le blé. Là, j'avais genre la cave à fromage, mais le fromage. Tu sais, ça fait que là, t'as la cave et comment tu fais une cave à fromage, tout ça. Puis c'était des recettes, c'était vraiment... c'était ça le concept.
Mais là, Robin, t'es tellement bon communicateur, t'as tellement de bonnes idées puis de connaissances, tout ça. Fais-moi croire là, que tu penses pas un jour, bientôt, lâcher le métier de professeur puis faire ça à temps plein. ou t'es trop accro, mais j'allais dire dépendant, mais je veux dire, ou t'es trop passionné par l'enseignement.
Ben, je veux dire, l'enseignement, c'est comme c'est comme ma référence. Je reviens, c'est rassurant. Puis j'ai encore des enfants ici. Mais la seconde que les enfants quittent la maison, ça se peut, hein. Nous, on a toutes sortes de projets. Ça se peut qu'on passe à d'autres choses. Mais pour le livre, pour revenir au livre, moi, je dirais que c'est comme, tu sais, faire un album de musique. Au début, tu sais pas qui va le produire, comment on fait la pochette, comment on fait l'enregistrement. Il y a tellement de détails. Tu sais comment faire ta musique. Moi, je sais comment l'écrire, le livre. Mais après ça, une maison d'édition, tout ça, pour moi, ça, c'est, j'ai aucune idée. Fait, je suis à cette étape-là. Puis je pense que c'est ça qui bloque le projet. C'est vraiment de dire, OK, ben, comment on fait la suite? Comment on met ça? Et c'est fou parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais faire du fromage, c'est la même chose. J'ai aucune idée. Puis pour moi, c'est si simple. Je l'ai appris. Il n'y a rien de compliqué. Mais c'est que des fois, on le sait pas. Puis moi, j'ai besoin d'aide là-dessus. Je vous le dis tout de suite, j'ai aucune idée. Il faudrait que quelqu'un me conseille.
C'est la première, en tout cas, c'est la première fois, là, je t'entends dire, je sais pas trop comment je le ferais. Il me semble, là, tu me parlais de faire une cave à fromage, un four à pain. Tu sais, t'es capable de tout faire, finalement, là. Fait que c'est faux.
Ouais, c'est ça.
T'ouvres un livre, là, d'une maison d'édition que t'aimes, là. Puis trouve le courriel, écris-leur, dis j'ai un manuscrit pour vous. Voici où j'en suis. Écoute, ce livre-là, là, je le vois dans ma tête. Là. Il est écœurant. Là. Ça serait vraiment bon.
Mais tantôt, tu parlais, Robin, de combien tu t'estimes davantage le maraîcher. Combien ton estime pour le maraîcher, elle a cru, elle a grandi au fur et à mesure de tes aventures. J'imagine qu'à un moment donné, tu te dis, peut-être que je pourrais vendre un peu de légumes. Qu'est-ce que tu penses de ce métier-là dans ta vie à toi? Ça serait possible, ça?
De vendre des légumes à partir de la ferme aussi?
Oui, c'est ça. Parce que là, t'es installé pour nourrir une famille à temps plein, chose que tu ne fais plus. Fait que tu pourrais, avec ce que tu as, avoir une entreprise maraîchère. Et qu'est-ce que tu penses de cette carrière-là d'être maraîcher?
Je pense que c'est ça. C'est compliqué dans le sens que comme l'idée, je peux penser à l'idée puis je peux tout. T'sais, mais le fait que je sois enseignant puis que j'ai besoin de me reposer, c'est que là, je réalise que je peux pas. J'ai des limites comme mon corps a des limites. Je dois dormir, je dois me reposer, me préparer pour l'enseignement.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr que tu peux pas faire les deux en même temps. Là. Mais j'imagine que ça t'est trotté par la tête dans ces deux années-là de pousser de façon professionnelle la culture
de l'église. Oui, absolument. Puis on avait des affiches, on mettait des choses... mais c'est comment... moi, ce que j'ai vu en Angleterre, c'était en 1999. J'habitais un été en Angleterre à faire des jardins, justement. Je travaillais pour une dame, elle avait un jardin, je faisais son jardin. Puis là-bas, ce que je trouvais qui était vraiment bien, c'était ces genres de kiosques-là où il y a personne, puis il y a juste une boîte, puis tu mets ton argent. Puis ça serait quelque chose que nous, on peut faire ici. On a déjà pensé faire un genre de petit abri où on peut mettre des légumes. Ça se peut qu'on le fasse. Ça fait partie des projets qui sont notre liste de choses à faire. Puis on s'est jamais rendu là. Ça fait que... Mais être là à attendre, avec le temps que j'ai, je pourrais pas faire ça. C'est rencontrer les clients. C'est sûr que j'aime ça. Mais disons que la formule tout de suite, le client là, qui dit « je m'en viens », puis là, une heure plus tard, on est en train de jaser, ça prend beaucoup de mon temps. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est juste que je peux pas faire ça avec chaque client qui vient à la maison, tout visiter la ferme pour acheter 12 $ d'ail.
C'est trop prenant. L'autre jour, je lisais un article sur un type qui est la ferme de rue à Montréal. C'est carrément des parcelles de maraîchage en ville. Puis il dit des fois, tu parles pendant 45 minutes à quelqu'un pour y vendre une courge à 1 $. Là. Et ça fonctionne pas, là. C'est après tout expliquer, puis au final, ben c'est ça, il achète peu, puis ton temps, ben à quelque part, il est précieux quand même. Les frigos libre-service, c'est génial si t'es dans un endroit qui est quand même assez achalandé, où il y a un peu de trafic, puis que les gens se retrouvent sur le chemin. Nous, à Victoriaville, on a les Alléchans. Notre ami Joanie le fait, puis il le fait très bien. Son kiosque est ouvert de 8 à 8, 7 jours sur 7. Le défi, c'est de le remplir autant que possible. Puis des fois, même le running gag, c'est qu'elle se cache quand il voit des clients arriver, surtout ceux qui reconnaissent les véhicules, comme Pierre-Luc. Quand il arrive, ils savent qu'il va parler longtemps. Fait que là, ils se cachent derrière les tomates là, pour pas être dérangés pendant qu'ils font le travail. Puis ça marche, ça.
En tout cas, moi, mes tomates sont un petit peu plus grosses, puis ah, sont bien beaux tes navets.
Ouais, c'est ça. C'est pas. Les autres, ils ont une job à faire, là. Toi, tu t'amuses dans ce temps-là. Puis c'est cool, le libre service, je pense. Au pire, si t'as des surplus, tu peux l'offrir en don, là. Ça peut être une autre façon aussi de tisser des liens avec tes voisins, là. Mais je suis sûr que tu le fais déjà, là.
Ouais, non, c'est clair que nous, c'est légumes, tu sais, la cave est pleine tout de suite. La cave est. Parce que ça, c'est une vieille maison, un caveau. On a plusieurs caveaux, ça fait qu'on a un à l'extérieur, un sous la vieille maison des années 1800, puis il y a une cave à fromage aussi. Mais le vieux caveau, il est rempli de légumes tout de suite, puis les légumes sont encore très, très bons à Saint-Sylvanie. Et ce qu'on fait, c'est ça. On fait juste un appel à des amis qui viennent les chercher. Mais pendant l'hiver, c'est certain que, tu sais, ça vaut quoi, ce que j'appelle un aveau, hein, c'est un navet, ça vaut quoi, tu sais, comme... Encore là, le client qui vient à la porte, tout ça. Je préfère les sortir sous le bord du chemin puis dire « Servez-vous à Saint-Sylvanie », puis les gens passent, puis les ramassent, puis ils partent. Wow.
Mais ça, c'est une très bonne question à poser à ton client potentiel. Je me souviens, nous, on avait un petit truc, les incroyables comestibles. Là. Dans le fond, c'est un organisme. Oui. Il nous donne une petite pancarte. Mm-hmm. Puis là, on avait des concombres à plus savoir quoi en faire. Alors, on mettait ça sur le bord de la rue, puis... un moment donné, mon fils, il passait par là, par hasard, à côté de la pancarte. Il y a une auto qui arrête. Il dit, je vais te prendre un concombre. Fait que là, OK, mon fils, avec un point d'interrogation entre les deux yeux, genre, il a 7 ans, là. Il prend le concombre, il donne au conducteur. Le conducteur, il donne 5$. Puis là, mon fils, il dit, non, mais c'est pour donner. L'automobiliste, il dit, non, regarde-le, pas de problème. T'sais, j'encourage l'entrepreneuriat, puis il s'en va, 5$ le concombre. Fait que c'est ça. T'es tous bêtes pour savoir comment ça vaut. C'est bien plus payant.
Ben, sais-tu quoi? Mes filles ont déjà passé à travers de cet esprit entrepreneurial-là. Ils ont ramassé 2 carottes, sont allés chez le voisin, hein, ils l'ont vendu, ils sont revenus avec 10$.
Ça.
Mais c'est pas le voisin qui a dit. C'est mes filles qui ont dit que ça valait 10$. Puis le voisin nous a appelé pour nous laisser savoir que mes filles leur avaient chargé 10$. on leur a amené.
Tu l'as remboursé?
Ah oui, ben oui. Non, ça. Hey. J'ai expliqué aux filles que chaque chose a un prix, c'est 2 carottes.
Ouais, ça, tu vois, Pierre-Luc l'a pas expliqué à son garçon, fait qu'à cette heure, il fait poche de tout le monde dans le quartier.
J'ai donné un high five, puis j'ai donné un high five, puis 8 tomates. Let's go, ramène-moi 80$.
Hey, question terre à terre, t'as parlé de ton caveau, on parle d'autosuffisance. Tu nous as dit que tu demandais aux élèves de faire des listes de légumes, de fruits. Shoot-nous donc ça, toi, ta liste de légumes, de fruits avec lesquels t'es autosuffisant. Je suis vraiment curieux.
OK, pour m'aider à faire ça, je vais peut-être parler des différents endroits où on conserve la nourriture. Parfait. Dans la maison. Ouais. Ça fait que si je commence avec la cave, là, pour terminer avec ce que je disais, on a des navets, mais des navets blancs, des gros navets jaunes, là, qu'on appelle plus des rutabagas. Ça fait que je sais les termes. Là. En tout cas, on a quelque chose qui se conserve très, très bien, c'est le radis melon.
Oui.
Comme le watermelon radish, il est comme beau, il est rose. Lui, là, il reste croustillant tout l'hiver, ça fait... Côté radis, ça, c'est notre radis d'hiver.
Lui, il est gros comme une balle de tennis, à peu près, ça se peut-tu?
Oui, comme verdâtre, là, un peu, puis l'intérieur est rouge, là, c'est vraiment... C'est super beau, c'est bon. Puis il est bon, il est croustillant. Autre chose, on a toutes sortes de types de carottes, là, tu sais, des carottes blanches, des carottes de conservation. C'est surtout des grosses carottes que j'ai, parce qu'ils se conservent mieux que les petites. Les petites, on les mange fraîches pendant l'été. Après ça, j'ai les panais que je viens de récolter. Donc, les panais, je les récolte après l'hiver. Puis souvent, j'en conserve un peu pour un mois dans le caveau à Saint-Sylvanie. Mais je fais tout de suite une transformation. Je fais une purée avec du curry, au cumin, je m'en fais plus. Et panais, là, c'est très, très bon. Puis ça, je le mets en pot. Ça fait que je parlerai de tout ce qui est dans la salle de conserve par la suite. Parce qu'on veut aussi se faciliter la vie. Ce qu'on peut faire en grande quantité, on met en pot. Ce qui fait qu'on revient de l'ouvrage, on peut ouvrir un pot, puis après ça, on est partout aux activités sportives avec les filles. Ça fait qu'il y a tout un côté.
C'est fait.
Ouais. Ça fait que, on peut
pas. Logistique, là.
C'est ça. C'est qu'on peut pas tout faire d'avance. Ça fait que c'est pour ça que le caveau, ça fait mon affaire. Moi, je vais pas faire tous mes repas de patates.
Ouais.
Puis les mettre en conserve au congélateur. Ça fait qu'on met des patates dans le caveau. Les pommes de terre, on a de toutes les sortes. On a surtout des fingerlings qui sont longues, qu'on fait nos frites. Puis maintenant, là, avec la fertilisation, là, que j'ai, on a trouvé la bonne recette avec le compost qu'on ajoute. Puis ils sont belles, ils sont grosses. Ça fait que on s'amuse plus avec des petites affaires aussi. Parce qu'au début, on mettait en conserve tout ce qui était petit, qui demandait du temps. Puis maintenant, on fait mieux aussi. Puis je pense qu'apprendre à bien cultiver, puis à en mettre moins, puis tu sais, tout ça. Ce qui fait que ce qu'on met au caveau, c'est comme... On se sent bien de mettre ça dans le caveau. Avant, on mettait des petites carottes que tu savais que ça allait sécher par le temps que tu le sors. Puis t'allais peler ça. Fait qu'on fait plus ça. T'sais, on met seulement ce qui va bien se conserver. Puis qui va être plaisant à sortir du caveau quand ça n'est pas prêt à manger. Ça fait que ça, c'est à peu près ce qu'on met dans la cave. Cette année, j'ai fait de la patate douce. On a des bon succès. Des grosses patates douces, des frites de patates douces. Ça, c'était génial. Ça fait que j'ai commencé mes slips là... à ce temps-ci de l'année, je vais buter, je vais mettre, j'irrigue beaucoup, puis finalement ça fait super bien. Puis je le couvre avec on appelle un row cover, donc un matériel blanc qui laisse passer l'eau et ainsi de suite. Moi j'utilise beaucoup ça dans mes jardins, c'est moi une barrière physique que j'utilise là pour à la fois la chaleur et les insectes des fois. Fait que ça c'est vraiment ce qui me permet de faire certains fruits ou légumes qui sont comme pas habituels dans la région.
Ouais.
Après ça on a le grenier. Dans le grenier on a de l'ail, on a des échalotes, différents types d'échalotes françaises. On a toutes nos courges. Je mets aussi des melons. Donc j'ai des melons qui viennent d'Afrique, qui ont pas de goût mais qui font des bonnes marmelades.
Okay.
Ce qu'on appelle le melon d'Espagne, le citron en anglais. Ça s'en va tout dans le caveau, dans le grenier, mais là, c'est la montée vers le grenier, ça fait que c'est isolé, ça fait que ça gèle pas.
Okay.
Là, c'est sec et c'est frais. Sec et frais. Après ça, on a la dépense. Dans la dépense, c'est là qu'autrefois on gardait notre blé. Ça fait que ça, c'était au frais. J'avais mon moulin à farine en pierre, ça fait que tout était là, on faisait nos farines et tout ça. On garde toutes nos conserves, ça fait que dans les conserves, là, la liste est très très longue.
J'imagine.
Que c'est certain que il y a des choses que je préfère congeler. Comme un pesto, je le congèle. Je vais pas le mettre sous vide parce que j'aime que ça goûte frais. Je veux pas le cuire. Je veux que ça goûte le basilic. Ça fait que, mais disons, une tomate confite, je veux dire, c'était dans le fourneau pendant je sais pas combien d'heures. Fait que ça, on les met en pot. Les champignons, on les met en pot. Ça fait qu'une soirée, j'ai besoin de faire de la pizza. Je sors mes champignons en pot, les chanterelles ou les shiitake que je cultive sur des bûches. Ou des champignons sauvages que je trouve quand on est chanceux, on passe à côté d'un champ où il y a plein de champignons sauvages, je vais les ramasser, les agariques et tout ça, on les met en pot, c'est ça, c'est déjà prêt pour faire des omelettes et tout ça.
Mais tes chanterelles aussi, c'est sauvage?
Chanterelles,
ça se cultive-tu?
Chanterelles, je les cultive pas, j'ai des endroits où je vais aller chercher, puis il y a des bonnes années, fait que les bonnes années j'en profite pour mettre des choses en pot pour 2-3 ans, puis ça c'est vraiment notre philosophie de quand on fait des choses en pot. On le fait pas chaque année.
Okay.
Ça fait que, disons que je fais une marinade de zucchini, ben, il y a une année sur trois que je la fais. Fait que je cultive plus de zucchini, sachant que j'ai cette marinade-là à faire, aux zucchini. Puis, un coup que c'est fait, on est bon pour 3 ans. Ça fait que, on sauve de l'ouvrage, là, en faisant avec cette stratégie-là. Après ça, des ratatouilles, je dirais que ça, c'est ce qu'on fait quand on a trop de tout. Fait que trop de zucchini, c'est beau, c'est dans une ratatouille, je commence des oignons dans de l'huile, puis je mets un pesto, puis tous les légumes que j'ai. J'ai déjà même mis des cocombes, c'est pas super bon, mais disons que la plupart des légumes, on peut les mettre dans la ratatouille. Ça fait que je remettrai pas du concombre dans... Mais des fèves, zucchini, c'est tout ce qui est frais en plein cœur d'été. Puis ça, on met ça en pot, puis quand on ouvre ça, je le mets sur une pizza, sauf que ça fait mes légumes, je mets du fromage... Puis notre pizza est faite. C'est très, très simple. Puis ça nous a dépanné plus qu'une fois.
Wow.
Ça fait que ça, c'est...
Ça, c'est vraiment une super bonne idée. Là, tu viens de m'influencer au bout. Moi, j'étais trop...
Sauce à spag. J'aime
toujours mindset sauce à spag. Mais là, ratatouille, c'est parti. Je vais devenir fatiguant avec ça à partir d'aujourd'hui.
Un pain avec un pain à l'ail. Puis tu mets de la ratatouille. Ça peut être un zucchini, un courge à spag. Où tu mets ta ratatouille, puis tu mets du fromage. C'est comme, elle vaut partout la ratatouille, puis tu peux juste la manger comme soupe.
Comme viande.
T'as juste envie d'avoir une bonne soupe chaude avec une toast, puis tu manges la ratatouille. Comme, c'est, puis de fois en fois, c'est jamais pareil. Puis dans la ratatouille, il y a surtout beaucoup de tomates. Ça fait, moi, je passe mes tomates là, puis je préfère que mes tomates soient là qu'au congélateur, puis que j'ai besoin de faire une recette chaque fois que je fais une ratatouille. Fait que ça, c'est prêt. Tandis que les tomates qu'on met quand même au congélateur, On va les sortir dans le mi-temps de l'hiver pour faire genre notre salsa, une fois, une année sur trois. Encore une fois, la salsa sort en pot, elle est là. Ça fait quand on sort, on veut manger mexicain, on sort nos fèves noires, que dans le fond, les fèves noires, c'est des soya noires, parce que moi, ça pousse mieux les soya noires. Fait, j'ai remplacé les fèves qui n'arrivent pas toujours à maturité chez nous, le Black Turtle, par le soya noir. Puis moi, c'est ce que...
Le soya noir, tu le mets au congélateur aussi avec tes...
On le met en pot. Ça fait que pendant l'hiver, des fois, on en met plein en pot. Là, ça fait que je fais une grosse chaudronnée. Je mets tout ça en pot, encore là, pour 3 ans assez souvent. Les fèves de lima, même chose pour 3 ans. Ce qui fait qu'on ouvre, c'est des fèves de lima, on peut mettre ça sur une pizza si on veut une pizza végétarienne. Donc, ratatouille, fèves de lima, fromage. Ça fait que ça, c'est comme des genres de choses faciles qu'on fait. Puis les fèves, on s'entend, je fais ça dans le mi-temps de l'hiver parce que j'ai du temps. Ça fait que ce que j'ai mis au congélateur, c'était parce que j'avais pas le temps. J'ai envie d'aller me coucher, je travaille demain. Puis ces choses-là, je le sais que dans notre calendrier, j'aurai le temps au mois de janvier de faire ma sauce à spag. J'aurai le temps de faire ma salsa. Puis on pourra tout mettre ça en pot. Sauce à spag, c'est jamais pour 3 ans parce que ça passe trop vite.
Ouais.
Ça fait que mes salsa, on peut en faire en quantité que, tu sais, quand tu transformes 30-40 litres de tomates, tu as 30-40 litres de salsa au moins. Ce qui fait que tu en as quand même pour quelques années.
C'est des pots d'un quart de litre à peu près que tu fais pour tes salsa ou un demi-litre?
Oui, on utilise les deux, là, le petit, là, puis aussi celui qui est 500 ml, je crois. Je pense que ça, c'est les deux formats. C'est que les formats vont toujours avec la consommation. Disons qu'une confiture, une gelée qu'on ne mange pas beaucoup, ben, j'utilise un petit format avant que le petit minou pogne dessus. On sait que, aussi comme pesto, souvent on va utiliser la moitié du pot, puis on l'oublie. Ça fait que là, maintenant, quand on sort, on gaspille, on met de l'ouvrage. Nous autres, on n'a pas acheté ça à l'épicerie, là. On a mis de l'effort. Puis de toute façon, on ne voudrait pas gaspiller, peu importe. Mais il reste que quand on voit qu'on gaspille, là, on réduit la grosseur du pot. Donc, on adapte selon la consommation là, à la maison. Yeah. Ça fait que, puis après ça, toute la congélation, fait que les frigidaires sont pleins de, ben, sont faits de la boucherie parce qu'il y avait des tables. Justement, on élève un cochon, 2 ou 3 avec des amis. On fait le bacon, on fait toutes les coupes, on fait des prosciutto, on fait. Puis j'ai des amis français de France qui m'ont montré à faire des recettes en pot. Ce qu'on aime beaucoup, c'est avoir le pâté de campagne. Fait que ça, c'est facile. Puis ça fait des beaux cadeaux à Noël. Ça fait qu'on offre le pâté de campagne en petit format à des amis. Puis l'autre, ce qu'on adore, puis qui est tellement bon, c'est la rillette. La rillette, là, qui est bouillie lentement toute la journée. On achète une bouteille de vin pour l'ami qui le brasse toute la journée, puis ça va bien. Puis à la fin de la journée, la rillette est faite. On se met les mains là-dedans, on sort tous les petits os, puis on met ça en pot. Puis ça, c'est bon pour 2-3 ans aussi. Ça fait, la dépense, c'est vraiment un endroit intéressant parce que ça peut vraiment te sauver l'ouvrage. Puis c'est vraiment ton épicerie, hein. C'est les étagères où tout est sur l'étagère, c'est tes boîtes de conserve. Ça fait que la diversité qui est là, puis je saute encore beaucoup bien de produits, là. On a tout ce qui est séché aussi dans la pantry. Ça fait que les pommes séchées, donc une confiture aux pommes séchées, c'est bon. Une tarte aux pommes séchées, c'est très bon, avec des raisins. Puis il y a plein d'idées de... Puis c'est ça qu'il faut trouver des fois, c'est cette inspiration-là de qu'est-ce que je fais avec mon produit. Sinon, il reste là. Comme Rebecca, qui est ma conjointe, elle rit toujours de moi, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça faisait 5 ans que la soupe à la salade était dans un pot. Mais la soupe à la salade, c'était une bonne idée. Personne n'aimait ça. Ça fait que, tu sais, j'avais trouvé ça dans un livre, ça s'appelait « Les soupes du monastère ». C'était tout maigre. C'était tout comme...
On est loin de la rillette, là.
Mais ça s'appelait c'était une soupe à la laitue, puis ça venait du livre « Les soupes du monastère ». Si ça vous intéresse, je le vends présentement, le livre
« Soupes du monastère ». Moi, je t'écoutais parler, j'avais vraiment faim, là, mais ça vient de casser un peu le beat. Oui. Là. Ah, il y a de l'ouvrage là, dans ce que tu viens de nommer. C'est une logistique.
Mais attends un peu, là, PA, là, est-ce que Robin a fini? On a-tu fini de faire le tour de la maison? On a fait le caveau, qui lui est froid et humide.
Oui.
L'entretoit qui est sec et chaud.
Et frais.
Et qui frais. Ne gèle pas.
Sec et frais, oui. Mm-hmm.
La dépense, elle est sèche et chaude.
Température oui, pièce.
C'est une valeur stable. Je la vois comme une valeur stable parce que le congélateur, il faut le vider à chaque année, il faut enlever la glace, c'est l'ouvrage. La viande, elle n'est pas très bonne après un an. Fait que ce qu'on appelle la pantry, tout ce qui est les pots, les conserves, c'est l'ouvrage qui est payant. parce que tu fais quelque chose puis t'as pas besoin de le jeter. C'est en conserve.
C'est bien investi.
C'est là. Tandis que le congélateur, tout ce qu'on a gelé, tout ce qu'on a congelé à un moment donné, ça goûte le carton, il y a beaucoup plus de gaspillage. C'est vite fait, mais disons que c'est un peu comme bâtir à la vite aujourd'hui. À un moment donné, il faut réparer, il faut jeter, et c'est moins sur le long terme. Ce qui fait que la congélation...
Est-ce que tu as un frigidaire pour la conservation aussi?
On a deux frigidaires. On n'a pas le choix d'avoir deux frigidaires parce que quand tout arrive, tout est frais. Exemple, on ramasse 2000 fleurs d'ail, disons. Ben, j'ai pas nécessairement le temps tout de suite à les transformer ou à les passer à des amis ou les vendre, parce que ça, des fois, on les vend. Il y a des acheteurs, il y a des gens qui veulent acheter de la fleur d'ail. Mais j'ai besoin de cet endroit frais-là. Donc, on a deux frigidaires dans la maison, un dans l'entrée, puis on a deux gros congélateurs. Un pour les fruits, où on va mettre gadelle, goji, la liste est longue, les cerises, les kiwis...
Ton raisin, est-ce que j'imagine que tu as de la vigne?
J'ai de la vigne, mais la vigne, je la mets sur la table frais. Puis c'est de la Somerset, c'est un raisin sucré.
C'est bon,
ça. Puis ça passe vite. Je fais pas de jus, je fais pas de gelé. Disons que tout ce qui est sucré, j'ai pris beaucoup de recul. Ça fait que je fais beaucoup moins de confiture. Je préfère des salades de fruits. Ça fait que la salade de fruits, ce que je fais, c'est que je congèle les cantaloups et les melons. Ça fait que ça, je fais juste ramasser avec une cuillère, parce que ça, on en a en quantité industrielle du melon et du cantaloup. À un point qu'à un moment donné, mes filles, quand Charlotte était jeune, on avait eu de la visite, puis mes filles étaient vraiment tannées de manger du melon. Il y en avait trop. Puis vous savez, il y a des mouches hein, qui mm-hmm. traînent autour. Ça fait que ma fille Charlotte, elle garde la visite, puis elle dit, vous autres, là, mangez-vous ça, des melons avec des mouches? Puis c'était ça, c'était comme pour envoyer le message que on est tanné, là, tu sais. Puis c'est, je veux dire, c'est comme une fatalité là, pour nos vies, là, tu sais. C'est pas la fin du monde, mais il y a de l'abondance en saison. Puis si t'aimes pas manger en saison, comme moi j'aime manger en saison, je peux manger 3 semaines la même chose, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de monde. Ça fait comme ma conjointe et mes enfants, ils apprécient de moins en moins manger beaucoup de la même chose pendant un certain temps. Mmh. D'où l'idée de le mettre en conservation, de dire, regarde, pas grave, moi ce soir, j'ai 30 melons sur mon comptoir, je les coupe, je mets de la musique, je m'amuse, puis je mets ça au congélateur, puis je vais me coucher. Puis pendant l'hiver, je sors le melon, puis je fais des salades de fruits. Fait, je mets toutes sortes de fruits, puis le lendemain matin, c'est dégelé, puis on a une salade de fruits prêt. Fait que le melon, il donne le jus, donne un bon goût exotique. Puis à l'intérieur, ben, je mets des fraises, je mets tout ce qu'il peut avoir au congélateur.
Ouais, mais moi, j'aime ça, je me reconnais là-dedans. Là, 3 semaines de sandwich aux tomates, 3 semaines de maïs, 3 semaines de spaghettis. J'aime ça, moi, clencher un élément là, de la nature. J'aime bien être écœuré de la roquette au début de l'été.
Oui.
Ouais. Mais la première est jouissive, puis la dernière, c'est comme, bon, on a compris, là.
Ouais, exactement.
C'est le fun de se rendre là. Et puis, hey, j'aimerais savoir, puisqu'on a parlé beaucoup de conservation, je suis curieux de savoir c'est quoi ton presto, de quoi il a l'air, il est gros comment, c'est quoi sa marque?
J'arrive à mettre des pots de 1 litre. Je sais pas, mais ça peut peut-être donner la grosseur. Là, je peux en mettre 7 à la fois.
Juste un étage de pots de 1 litre?
Ben, les 1 litre, je peux pas mettre 2 étages. Je peux mettre un étage. Mais les 50 millilitres, là, je peux en mettre
500 millilitres?
Deux étages, puis ça, je peux en mettre beaucoup plus. C'est certain qu'il y a des moments où j'ai déjà emprunté un presto d'un ami parce que là, on avait, tu sais, je ne voulais pas attendre 1 heure entre chaque, tu sais, là, par le temps que ça fait une demi-heure, refroidir, sortir et recommencer. Ça demande du temps. Ça faisait qu'à un moment donné, Rebecca, elle a dit, moi, il y a une soirée, elle a dit, garde, moi, c'est fini, je vais me coucher. Puis elle a jamais resté passer 10 heures à aider à faire. Parce qu'il était rendu 2 heures du matin, on faisait du pesto, puis on était en train de.
Elle est raisonnable.
Non, mais il y a des moments comme ça que c'est correct, c'est bien, tu sais, mais il y a une réalisation qui est comme. Moi, je suis out. C'est fini pour moi, ça, cet aspect-là du projet. Parce qu'il y a mille et un aspects hein, au projet. Ça fait, ils sont pas tous désagréables.
Fait que toi, tu es capable de dealer avec quelqu'un qui abandonne parce qu'il te reste encore 8000 affaires que tu le tiens.
Ah non, mais tu sais, il y a des projets que là, je suis comme, OK, les filles, regarde, ça fait partie de l'aide de la maison. Tu sais, on nettoie la maison ensemble, il faut qu'on contribue. Mais il y a des temps où j'ai besoin de l'aide. Tu sais, vous voulez manger des frites à soir, les filles? Oui, super, venez-vous-en. Vous allez peler des patates puis les couper en tranches. Ça fait que ça fait partie de la réalité. Je peux pas tout faire moi-même. Puis à faire tout soi-même, ça devient rapidement désagréable. Mais en même temps, je veux dire, c'est des enfants, je veux dire, puis je vous dirais que la plupart du temps, ils sont pas dans le projet. Et c'est pas vrai qu'ils sont ici à faire plein de choses autour de la maison. Ils ont une vie assez normale, puis nous autres, on voulait que ça soit de même. Quand ils étaient jeunes, à quatre pattes, ça leur faisait plaisir de ramasser, puis se traîner dans le gazon, puis ramasser des fruits, mais maintenant, ils ont des activités, ça fait que... Mais il y a des moments clés, là, où ce que comme planter l'ail, récolter l'ail, la soirée avant qu'il y a une gelée, là, genre moins 4, ben, c'est go. Dans le jardin, on vide les courges, on ramasse tout ce qu'il y a ramassé avant la gelée. Ils savent que c'est des moments critiques où on a besoin de s'aider parce que là, il sera trop tard le lendemain matin si on les laisse au jardin.
Commencer l'alimentation sur une année, tu sais, c'est un type d'alimentation, cela, là, l'autosuffisance. Tu peux pas. Tu vas manger plus de gras, ces choses-là. Fait que comment ton corps il apprécie ça, l'autosuffisance pendant un an?
Je pense que c'était plus difficile qu'on pensait que ça allait l'être. Le gras de cochon, moi, finalement, j'ai réalisé que je le digère pas super bien. Puis c'est côté digestif, là, c'est lourd. Tu sens que c'est lourd. Puis moi, il fallait vraiment que j'apprenne à manger ces choses-là en modération. Tu sais, il y a des choses comme quand tu as fini ton bacon puis fumé au bois de pomme avec du bois que tu es aromatisé avec ton cidre de pomme alcoolisé. Je veux dire, il y a quelque chose d'absolument incroyable où tu sens que tu as besoin d'appeler tous tes amis. Venez-vous-en, il faut absolument venir vivre cette expérience-là avec moi. T'sais. Puis oui, tu en manges trop, puis ben, c'est ça. C'est tellement bon, puis les fromages, c'est tellement bon, mais tout ça, c'est gras. Puis il a vraiment fallu apprendre à être, comment est-ce qu'on dit, raisonnable. Je veux dire, c'est beau, j'ai mangé ma tranche, puis c'est pas parce que ma meule est grosse de même. Hein, qui est rare, puis t'en as 12.
Faut que t'en manges, d'un coup.
De une sorte, puis t'en as 30 en tout. Puis c'est pour ça que la conservation est là. Ça fait qu'il n'y a pas de presse. Tu peux le laisser là. Puis fromage, c'est quelque chose qui prend du goût quand t'apprends à bien le faire. Ça fait qu'il n'y a aucune presse.
Avant de conclure, Robin, on n'a pas mentionné, mais la famille Leblanc, vous êtes une famille d'artistes, de musiciens traditionnels. Les auditeurs qui nous écoutent, qui aiment ça, ils vont où pour écouter... votre art, votre musique?
Ben, il y a deux endroits. C'est sûr qu'en mettant la famille Leblanc sur Facebook, il y a notre page. Ça, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez aller communiquer avec nous. Puis il y a de la musique qui est là. Sinon, sur toutes les plateformes électroniques, on peut trouver notre musique. Mais quand on parle d'autosuffisance puis de communauté et ainsi de suite, vraiment l'endroit le plus intéressant, c'est vraiment où il y a une communauté. C'est ça s'appelle Bandcamp, donc B-A-N-D. C-A-M-P. Puis là-dessus, ben, c'est un peu comme une boutique virtuelle où notre musique est là, on peut l'écouter gratuitement. Puis si jamais que les gens veulent se procurer de la musique, mais aussi on a un album qui s'en vient cet été, on est en train de faire un deuxième enregistrement. Et ça va apparaître là en premier. Ça fait que ça va être sur Bandcamp pour commencer, puis après ça, sur le reste des plateformes. Ça fait que c'est là où on peut nous trouver.
Cet épisode était une présentation de notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui est un réseau solidaire de producteurs maraîchers et de consommateurs soucieux de leur alimentation et de l'environnement. Merci au RFF de porter cette cause-là qui est tellement importante. C'est un geste de développement durable qui dure depuis déjà 25 ans. Merci d'exister et de faire partie de la solution.
Et merci à notre partenaire, le Fertifras, un fertilisant organique tout usage, 100% fumier d'insectes, 100% biologique et 100% québécois.